Et c'est une nouvelle semaine que nous allons débuter ensemble dans une entreprise phare de la région, l'entreprise Legrand. Edith Dumas, directrice de la communication. Tout a commencé ici, à Limoges, et de façon vraiment familiale, une belle petite histoire.
Oui, absolument. L'entreprise a commencé d'abord par la porcelaine, puisqu'on est dans une région où la porcelaine était quelque chose de très important. Donc, à la fin du 19e siècle, il y avait ici une fabrique de porcelaine, des assiettes. Et puis, comme ils avaient déjà le souci de l'économie, entre les piles d'assiettes de porcelaine qui cuisaient et qui séchaient dans les fours, il y avait un espace, parce qu'à l'époque, elles étaient rondes, les assiettes. Et dans cet espace, c'était le début de l'électricité, très vite, au début du 20e, on a mis cuire de l'appareillage en porcelaine dans les trous, là. Et c'est ce qu'on appelait les tumblers. Et ça s'appelait Legrand parce qu'il y avait un monsieur Legrand qui avait racheté cette entreprise, Frédéric Legrand. Et en 1944, il y a deux beaux-frères, Édouard de Coster et Jean Verspirène, qui sont arrivés, qui ont acheté cette entreprise. Et ces deux personnes continuaient les deux choses, mais il y avait pas mal de porcelaine électrique, on va dire, pour faire simple. Et puis en 1949, il y a eu un incendie monstrueux, qui a détruit une grande partie de l'entreprise. Et là, idée géniale des deux beaux-frères. D'abord, on reconstruit. Mais deuxièmement, on fait un virage important, stratégique. On ne va plus que sur la porcelaine électrique. Et c'est là qu'on est véritablement devenu ce que nous sommes, enfin le début de cette grande histoire. Voilà. Et alors après, bien sûr, donc c'était l'après-guerre, donc il y avait beaucoup à équiper. Et donc l'entreprise a commencé sa croissance. En 66, on est sorti de France, c'est-à-dire qu'on a commencé à aller en Belgique. En 70, très tôt, l'entreprise est rentrée en bourse. En 77, le Brésil. 89, Bettichino, très important en Italie, qui était presque aussi gros que nous à l'époque. Et puis, ça a continué avec des entreprises acquises en France et puis à l'international, sachant que maintenant, nous sommes sur tous les continents.
70 pays implantés pour le groupe Legrand.
Nous sommes 33 000 dans le monde. 35% du chiffre d'affaires est réalisé dans les nouvelles économies. Le Brésil, dont j'ai parlé précédemment, mais c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine principalement, mais d'autres pays aussi, 38% du chiffre d'affaires avec des produits nouveaux.
Alors on va voir qu'il y a des vraies valeurs aussi que l'on défend, puis on peut parler de la France également, c'est quoi, 6500 collaborateurs?
Absolument, un petit peu partout en France. La France est quelque chose de très important, j'ai dit tout à l'heure que c'était le berceau, mais il y a encore près d'un quart du chiffre d'affaires qui est réalisé en France.
Alors vous travaillez sur quatre domaines, on va les scinder comme ça?
Absolument. Celui qui est le plus connu, on va dire, c'est le contrôle-commande, parce que là-dedans, il y a l'appareillage. Donc on dit souvent que Legrand, c'est le spécialiste de l'appareillage. Certes, on est leader de l'appareillage, mais on ne fait pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les systèmes résidentiels, c'est-à-dire le pilotage des volets, le pilotage de l'éclairage, le pilotage du chauffage, les interphones, l'alarme intrusion. Deuxième axe, le cheminement de câbles. Ce sont tout ce qu'on appelle les goulottes, les boîtes de sol, les conduits, qu'ils soient en plastique, qu'ils soient métalliques, etc. Troisièmement, la distribution de l'énergie, donc c'est-à-dire les tableaux de distribution, le coffret d'abonnés que l'on a chez soi. Et enfin, la distribution des données numériques, les prises qu'on appelle RJ45, les prises qui permettent de brancher son ordinateur, par exemple, les bornes Wi-Fi, etc. Voilà. Donc, c'est un domaine très important et c'est comme ça qu'on dit que nous sommes spécialistes mondiaux des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.
Et puis, des valeurs, on l'a dit également, autour de l'entreprise, extrêmement importantes.
J'en ai déjà évoqué une qui est l'innovation. Autre valeur importante pour le groupe et que nous mettons en œuvre et que nous inculquons aux nouveaux, c'est l'éthique du comportement dans le développement durable, mais pas que, bien sûr, c'est aussi le comportement au quotidien. La valorisation des ressources, à la fois les ressources humaines, mais c'est aussi la valorisation des ressources matérielles, c'est-à-dire ne pas gaspiller, faire les bons investissements au bon moment, etc. Et puis, la quatrième, c'est l'écoute du client. Pour nous, le client est essentiel, c'est lui qui nous fait vivre. Et donc, il est très important de faire des produits qui correspondent aux attentes du client, et notamment de l'installateur, avec des choses qui sont faciles à installer.
Nouveau rendez-vous, deuxième rendez-vous au sein de l'entreprise Legrand avec Edith Dumas qui est la responsable de la communication du groupe. Et avant de parler de, c'est-à-dire le fond, on va parler de la forme de tous ces produits Legrand puisqu'on va parler design.
On va parler design, on va rencontrer Fabien Striblen qui est un de nos grands designers.
Alors un mot déjà sur le métier de designer tout simplement pour ceux qui connaissent le terme mais qui ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière.
Alors moi il y a une expression que j'aime beaucoup qui est quand on pose la question à un designer pour designer un pont. Le designer, sa démarche va être de réfléchir à comment traverser l'eau. Donc, au travers de tous les produits Legrand, on essaie d'avoir un petit peu cette philosophie, de toujours être capable de reposer la question, de remettre les choses un petit peu à plat, pour essayer de trouver la meilleure des réponses.
C'est-à-dire qu'il nous faut du pratique en plus du beau?
Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a toute une réflexion de fond aussi sur des approches plutôt ergonomiques, sur des approches d'usage, et que finalement, la forme n'est que la formalisation de toute cette réflexion. Donc, ça ne se limite pas, surtout pas, qu'à la forme, même si c'est finalement la seule chose qu'on voit et qu'on retient.
Alors, concrètement, vous, comment vous travaillez? On part de la page blanche.
Le plus souvent, on vient nous voir, en règle générale, ensemble, le marketing, le développement, on se met autour d'une table et on regarde justement la problématique qui est posée, alors soit par le développement, soit par le marketing, soit par le design. Quand les choses sont apportées par le design, c'est suite probablement à une initiative par rapport à des évolutions sociétales où on va vouloir montrer qu'il y a peut-être d'autres champs possibles pour le business de Legrand. Le marketing va peut-être être plus dans des considérations d'aller conquérir de nouveaux marchés, et puis le développement, essayer de pousser au bout la technique, essayer de la simplifier, essayer de trouver le meilleur produit.
Vous travaillez sur tous les produits Legrand sans exception, oui. À la fois ceux qui sont pour la France, on va prendre notre cas, mais aussi pour ceux qui seront pour l'étranger. Ça veut dire qu'on travaille différemment forcément pour des pays asiatiques notamment.
Oui, les attentes sont pas forcément les mêmes, même si pour de l'interrupteur et de la prise, la fonctionnalité va être la même, mais un interrupteur en Allemagne va pas forcément faire le même bruit qu'un interrupteur en Angleterre ou qu'en Chine. Donc c'est aussi des choses qu'on travaille. Le design aide à justement trouver du sens au travers de ça, être capable d'amener des formes qui soient en cohérence par rapport à ce que le marché attend, et être capable de s'adapter en fonction des habitudes du marché.
Quand on pense design, on pense forcément à des produits concrets, mais votre travail, ça va bien au-delà. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont virtuelles, le design en fait partie.
Oui, complètement. C'est vrai que c'est l'exemple un petit peu à la mode en ce moment, mais des applications pour des smartphones ou pour des tablettes, c'est complètement des choses sur lesquelles on travaille, où on a la possibilité au travers de ces interfaces, de ces applis, de commander nos installations électroniques ou évoluer. Donc ça fait aussi partie du travail du design, de travailler sur l'ergonomie, sur la lisibilité, sur l'évidence, sur la simplicité, la compréhension de tout ça.
Il suffit de regarder autour de nous et on va voir que le design a beaucoup évolué dans ces appareillages Legrand. Là autour de nous, on est dans une pièce un peu particulière, c'est une galerie d'expo avec de nombreuses pièces numérotées. Qu'est-ce que c'est exactement pour essayer de faire comprendre à ceux qui n'ont pas l'image?
En fait, c'est un outil qui nous permet d'avoir un certain nombre d'échantillons sur la plus précisément la matière, donc quelle typologie de matière, de matériaux, d'effets, de technologies aussi qu'on peut utiliser. Et donc c'est la possibilité d'avoir un petit peu tous ces échantillons visibles sous les yeux. Donc en règle générale, quand on fait des réunions dans cette salle et qu'on discute, on va finir par attraper un échantillon, le montrer pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'on imagine en termes d'effets, en termes de peinture, en termes de moulage, en termes d'essence de bois, en termes de porcelaine, ou voire même encore de matériaux qu'aujourd'hui on n'utilise pas encore et qui pourront être intéressants pour le futur.
Alors justement, ce futur, il est sans limite pour vous, les évolutions, le champ est vraiment très vaste pour vous?
Oui, complètement. Après, le maître mot dans notre métier, c'est d'être capable d'arriver à trouver des réponses qui permettent de simplifier la vie de l'utilisateur, et encore, puisque ça restera toujours vrai.
Plus ça a l'air simple, mieux vous avez travaillé.
C'est justement le défi, là, pour le coup, tous les jours, parce que faire simple, c'est très compliqué.
Troisième rendez-vous dans l'univers de l'entreprise Legrand, notamment avec vous, Edith Dumas, depuis le début de la semaine. Là, on a changé de secteur, on a parlé de l'histoire, on a parlé design, mais au-delà de la forme, il y a le fond également des produits. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, me semble-t-il.
Oui, alors maintenant, on est dans le bureau de Philippe Rongère. Philippe Rongère, c'est le directeur du développement et technologie de l'appareillage. C'est son travail de prendre les données marketing et ce que lui a donné le design, et puis d'en faire quelque chose et de le faire valider. Mais il va raconter ça beaucoup mieux que moi.
Si je dis Philippe Rongère qu'on est sur les têtes pensantes du réseau, je dis une bêtise?
C'est presque ça, c'est presque ça. Il faut savoir qu'au départ, on va pas partir d'une feuille blanche. On fait rien au développement sans qu'il y ait une commande à quelque part. Et cette commande, elle va venir du marketing. Alors qu'est-ce que c'est la commande? ça va être des données d'entrée qui vont venir du marché, qui vont venir des filiales, qui vont venir du design. Donc tous ces gens-là, ils vont nous apporter en fait à quelque part une demande. Et nous, en termes de développement, on va travailler à la réponse, bien évidemment. La réponse sous deux formes. La première forme, c'est technique, c'est-à-dire qu'on va répondre à des produits. On va faire des offres de gamme d'appareillage. Puis après, il va y avoir la réponse industrielle, parce que bien évidemment, faire un produit, c'est une chose. Mais il faut pour autant qu'on arrive à l'industrialiser et en faire un produit performant, ça veut dire avec un coût optimum, avec un niveau de qualité remarquable, avec tout ce qui va avec.
Ça veut dire que vous devez réaliser, concrétiser du rêve presque ?
C'est bien ça. Alors on s'appelle souvent les briseurs de rêves, hein, parce que nos marketeurs sont des gens qui ont plein d'idées, bien évidemment, et puis ils voient des compétiteurs, ils voient des filiales, ils voient plein de gens comme ça qui leur donnent plein d'idées. Et puis nous, à quelque part, on va concrétiser. Concrétiser, ça veut dire à quelque part sortir du rêve, hein. Donc on va essayer de matérialiser ces produits du futur. Mais il va falloir le produire par millions, hein, comme je dis souvent, et le jeu, il est un peu plus compliqué à ce moment-là. On est sorti du rêve, on est passé au concept, et la phase d'après va être la matérialisation de tout ça. On a aujourd'hui dans le développement 360 personnes. Sur ces 360 personnes, on va dire qu'on a deux centres de tête qui font ces études avancées. Le Grand France avec Limoges pour la partie Marc Legrand, et Betticino avec Varese, hein, une équipe italienne sur la partie Marc Betticino Italie. Donc ces deux équipes-là font ces phases amont et vont travailler tout ce qui est estimation, réalisation des concepts et compagnie. Puis après, on va passer dans les phases aval, une fois qu'on a la bénédiction de notre PDG, là, qui là vont être réalisées au plus près des marchés. En Europe, on a encore des équipes qui sont en Hongrie. En Chine, deux équipes, deux centres de développement chinois, un centre en Inde et un centre au Brésil. Donc on va au départ, bien évidemment, profiter de l'expertise du groupe Legrand et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ces deux marques phares que sont Betticino et Legrand, et réaliser ces concepts, réaliser ce qu'on appelle, nous, des masters. En fait, c'est le modèle. Et à partir de là, on passe sur ces phases aval qui sont localisées au Brésil, en Inde, en Chine et divers. Quand je dis localisé, c'est-à-dire que quand on développe en Chine, c'est pour la Chine. Quand je développe au Brésil, c'est pour le Brésil, voire l'Amérique latine, bien évidemment. Aujourd'hui, on est très développement et production au plus près de nos marchés. Après, on va rentrer dans les phases d'industrialisation. On va lancer les moyens industriels. Donc là, c'est du dur, hein. Là, on va faire du copeau, comme on dit chez nous, hein. Donc, on va s'occuper du lancement de ces moyens industriels. Après, on va arriver aux phases de qualification. Qualification, et là, on a des laboratoires qui sont là aussi au plus près de nos centres de développement. Et vous allez voir, je crois, le laboratoire de Limoges. Donc là, on va qualifier les produits. Et là, on va aller sur nos sites de production. Avec nos équipes de production, on va fabriquer les premiers lots industriels. C'est les premiers lots qui vont partir à la vente, hein. Et on va leur donner un objectif en disant, voilà, des produits comme ça, on va en faire 300 par heure. Et ça va devenir le référentiel de la production en termes de performance, en termes de produits, puisque les produits auront été qualifiés au labo. Et puis en termes de qualité, où on aura en fait mis en œuvre un plan de surveillance de la qualité pour le produit.
Ça veut dire en gros que vous avez réussi à apporter la réponse à la question qu'on vous posait. Vous avez réussi à convaincre. À titre personnel, il y a une petite fierté aussi.
Ah, c'est assez clair, hein. C'est tout projet, en fait, à quelque part, c'est un challenge, hein. C'est l'intérêt, en fait, du développement. Moi, j'ai poussé à un moment donné ma carrière dans ces domaines-là parce qu'à quelque part, chaque jour est un jour nouveau, puisque les projets, en fait, chez Legrand, on a réussi à diviser par trois quasiment le cycle de développement d'un projet. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc les sujets sont beaucoup plus variés. Et au final, à un moment donné, mettre le produit sur le marché, le voir passer dans des spots publicitaires ou chez des clients, c'était toujours très, très valorisant.
Et vous savez, la caractéristique des Legrand, c'est que quand ils vont quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder l'appareillage. Franchement, on est tous dénaturés.
Il faut faire attention à inviter des salariés Legrand chez soi. C'est ce que vous voulez nous dire.
Et même à la télévision. Quand on regarde les films aujourd'hui nous permettent de dire, tiens, finalement, ça, c'est un produit que j'ai fait. Ça, c'est une vraie fierté à quelque part.
C'est un collab sur la filmographie des composants Legrand.
C'est a priori ça.
Un nouveau rendez-vous cette semaine dans l'univers de l'entreprise Legrand, toujours avec Élie Dumas qui est responsable de la communication du groupe et qui nous sert de guide au travers de l'immense site. Là on entend un peu de bruit autour de nous, sur les phases de test, vous nous situez un petit peu l'endroit.
Nous sommes au laboratoire, nous avons descendu quelques marches pour arriver au laboratoire et c'est Jean-Marc Liboutet qui est le patron de ce périmètre-là, du laboratoire central, qui nous accueille et qui va tout nous raconter sur ce qu'on fait au laboratoire.
Alors on dit responsable laboratoire produit, parce qu'il y a deux types de laboratoires ici.
Voilà, c'est un laboratoire produit, puisque nous testons le produit fini, voilà, avant commercialisation. Et ça se différencie des laboratoires matières, où on expertise plutôt les matières plastiques ou les matières métalliques.
Après, alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on fait subir. Il y a énormément de normes, vous me disiez, que vous devez contrôler. Et on va voir que c'est d'autant plus compliqué que l'entreprise est internationale.
Voilà, la force de Legrand, justement, c'est d'être un groupe international. La conséquence, c'est que tous les produits que nous devons sont testés ici au laboratoire ont différents types de standards pour différents pays. Donc, on doit satisfaire beaucoup de normes internationales et nationales, comme des réglementations particulières sur des pays, puisque chaque pays, des fois, a ses propres directives, ses propres réglementations. Et cela signifie, grosso modo, qu'on doit couvrir environ 300 normes régulièrement pour satisfaire l'ensemble des produits que nous testons. Mais les normes, c'est un peu comme les poupées russes, hein. Une norme fait référence à une autre norme qui fait référence à une autre norme. Et on doit avoir, on va dire informatiquement, accès à environ 800 normes pour arriver à avoir toutes les informations sur tous les tests que nous devons faire.
Vous ennuyez pas, on a bien compris. Sur la simple zone européenne, par exemple, c'est combien de normes ?
Européenne, on va dire, on a environ une centaine de normes.
Par exemple, là, on est dans une première salle, on entend que des machines sont en train de travailler.
Là, vous êtes dans le cœur, je dirais, de laboratoire, c'est la salle des c'est électrique, d'endurance électrique. Donc là, on teste l'ensemble des prises et des interrupteurs. Donc on teste leur endurance. Et heureusement qu'on le fait en automatique, puisque pour vous donner un ordre d'idée, sur une prise, on fait 5000 introductions-extractions d'une fiche dans la prise. Donc si on devait le faire à la main, on devrait avoir beaucoup de personnes. Et puis je pense qu'à un moment donné, il se plaindrait un petit peu.
Il enlèverait les prises chez lui pour ne pas avoir à le refaire à la maison d'ores et déjà.
Voilà. Donc d'un point de vue aussi sécuritaire, hein, au niveau de Limoges, on est très très à cheval sur la partie sécurité. Bien sûr, sur le produit fini pour l'utilisateur, mais aussi pour les techniciens qui, évidemment, on teste sous tension et intensité nominale, donc sous vrai courant, sous vraie tension. Donc, il ne faut pas que les techniciens prennent de risques. Donc, tout est capoté et tout est automatisé.
Alors, le bruit qu'on entend, par exemple, on peut se rapprocher. Donc, c'est une machine, c'est celle qui est face à nous.
Voilà, donc ici, vous avez une endurance sur un interrupteur. Donc, vous voyez, on a... Des petits pistons qui viennent allumer et éteindre l'interrupteur. Voilà. Et ça, on va le faire 10 000 fois. Un automate qui identifie bien que le circuit s'ouvre ou se ferme. Et s'il y a le moindre incident, l'automate s'arrête et il y a une petite alarme lumineuse et sonore. Et le technicien qui réalise l'essai vient sur la machine et regarde ce qui se passe. Est-ce que c'est un défaut de la machine ? Est-ce que c'est un défaut du produit qui est testé ? Voilà. Il analyse, il note l'information et tout ça, le compte-rendu est donné au développeur de manière à savoir exactement ce qui s'est passé sur la vie de son produit lors du test.
Là, il n'y a pas droit à l'erreur, hein, on est bien d'accord.
Il n'y a pas droit à l'erreur, à l'issue, non, tout à fait. Avant commercialisation, tout doit être conforme par rapport à la norme.
Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Donc ça, c'est le côté électrique. Et il y a d'autres phases de test, voilà. D'autres types de tests.
Alors, le test sur l'étanchéité. Et au niveau de l'étanchéité, on a un indice 1 jusqu'à un indice 8. Donc le niveau 1, ça simule une pluie verticale avec ou un goutte à goutte, une condensation qui tombe sur un produit. Et on va jusqu'à asperger le produit avec une lance.
Donc ça, c'est la phase d'étanchéité, voilà. Mais on ne s'arrête pas là.
Non, on fait aussi des essais de tenue à la corrosion, des essais à la poussière aussi. On a des essais aussi pour éviter que des parties métalliques puissent rentrer dans le produit. Par exemple, un enfant, on ne veut pas que quand il joue avec une prise, il puisse mettre avec une aiguille à tricoter qui vienne toucher les alvéoles où il y a du passage de courant. Donc nous, on a des éclipses pour éviter que voilà qu'on ait ce genre d'incident.
Il y a des grands enfants ici qui s'amusent à mettre des aiguilles à tricoter, oui. Dans les prises, j'ai bien compris.
Je voulais pas le dire, mais oui.
On ne donnera aucun nom, bien entendu. Là, autre salle, test climatique.
Voilà. Une salle qui est emblématique aussi dans le laboratoire. Tous nos produits, avant de faire leurs essais électriques, mécaniques, thermiques, sont vieillis. Voilà, on fait du vieillissement accéléré. Parce que si on fait un produit neuf, on sait très bien que les matières plastiques, les matières métalliques ne se comporteront pas de la même manière dans 10 ans. Donc on essaye d'accélérer tout ça. Et donc on leur fait faire des cycles de thermique et d'humidité. Et les deux cumulés. Parce qu'on sait très bien que certains plastiques sont sensibles à la reprise d'humidité. Ils peuvent gonfler. Les pièces métalliques aussi peuvent, avec la température, se déformer, etc. Donc on les fait vieillir et ensuite on fait faire leurs endurances électriques ou mécaniques.
Puis on a eu un coup de cœur pour un produit, on peut se dire que dans 10 ans, il sera presque comme neuf.
C'est tout à fait l'objectif, oui.
Et nous arrivons au terme de notre semaine que nous passons depuis lundi ici au sein de l'entreprise Le Grand, que nous découvrons avec notamment notre guide Edith Dumas qui est directrice de la communication. On est au bout de chaîne maintenant, puisque là, on est sur un des sites de production.
On est sur un des sites, nous sommes sur Magréen, et nous allons d'ailleurs rencontrer le responsable de l'atelier de Magréen, à savoir Thierry Pontoiseau, qui va nous présenter ce qu'on fait ici.
Qui va devenir notre guide sur cette partie-là. Thierry Pontoiseau, un mot d'abord sur le site, qui est déjà relativement impressionnant. Quand on sait qu'il y en a plusieurs, ça donne déjà une bonne image de ce qu'est la production de Le Grand au quotidien.
Oui, donc Magréen, c'est un site de production où on a environ 120 personnes. C'est un site qui tourne en 3 fois 8 heures, également les week-ends.
Alors on va voir comment ça se passe, on va carrément passer tranquillement ensemble au cœur de l'usine, on va voir qu'on change un tout petit peu d'ambiance par rapport au bureau évidemment.
Donc l'atelier il est organisé en différents îlots. Au niveau technologie, on retrouve dans l'atelier des technologies de moulage, de l'assemblage, et on retrouve à la fin de l'assemblage des machines de conditionnement, de la mise en sachet, de la mise en boîte, de la mise en carton. Et voilà la chaîne complète, on moule et on conditionne au bout de la ligne.
On fait tout de bout en bout. On va s'approcher peut-être d'un des îlots pour voir concrètement comment ça se passe.
Oui, donc là, on peut voir une ligne complète où là, en amont, on a deux presses bimatières. Ce qu'on appelle les presses bimatières, c'est que les plaques mosaïques sont faites en deux couleurs avec deux matières différentes. Et le moule permet d'injecter une première matière et après d'injecter une deuxième matière. Et une fois qu'on a fait ce moulage bimatière, après, les pièces sont amenées sur des tapis jusqu'à la machine de conditionnement. Une fois que ça passe sur cette machine, c'est mis en sachet et après, c'est amené dans une autre machine de conditionnement où là, on les met carrément dans des petites boîtes. Donc là, c'est une chaîne qui tourne 7 jours sur 7, 24 sur 24.
C'est combien de pièces qui sortent par jour ?
Là, on fait environ 80 000 pièces par jour. Là. On ne produit qu'à la demande du client. On a des stocks de sécurité pour pas que le client tombe en rupture, mais on essaie d'être au plus près de son besoin. La réussite, c'est la flexibilité et la réactivité.
Alors, il y a parmi les nouveautés récentes sur le grand, il y a l'atelier peinture.
Oui, donc là, on a intégré une nouvelle ligne de peinture. C'est M. Fabrice Daume qui est expert en procédé de traitement.
Oui, tout à fait. Donc, l'îlot de peinture. Donc, l'îlot est juste à côté. On va y aller, si vous voulez. On va s'y rendre.
Donc là, on change d'ambiance et on va s'équiper d'ailleurs parce que c'est des choses extrêmement pointues, Fabrice.
Comme vous le savez peut-être, l'ennemi de la peinture, c'est la poussière, les fibres. Donc là, on rentre dans un îlot qui est pressurisé. Et il y a certaines contraintes, en fait, il faut, chaque fois qu'on rentre dans cet îlot, eh bien, il faut s'équiper de blouses antistatiques et limiter au maximum les entrées de poussière dans cet îlot.
Il faut investir pour pouvoir installer un nouveau pôle comme celui de la peinture.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est un îlot qui est entièrement neuf, hein, qui a été refait. Donc, mis à part la ligne, il y a également toute l'infrastructure, tout le génie civil. C'est un investissement global d'environ 1 300 000 euros. Donc, il y a deux parties. Il y a une ligne, en fait, qui est entièrement automatisée. Même l'application se fait avec des robots. Par contre, en amont, ben, il y a toutes les étapes de chargement, puisque les pièces qu'on doit peindre sont chargées, sont positionnées unitairement sur des plateaux. Et ça, c'est fait à la main. Donc il y a des opérateurs et des opératrices qui viennent positionner les pièces sur les plateaux et ensuite qui positionnent les plateaux sur la ligne. Et à partir du moment où on a rentré la référence dans l'automate, eh bien la ligne va prendre en charge ce plateau avec ses pièces et appliquer les différentes étapes de la gamme.
Et quand tout est OK, on passe au conditionnement, on l'a vu sur les chaînes précédentes, et on va ensuite pouvoir passer à l'expédition.
Tout à fait.
L'intérêt de tout ça, il y en a de nombreux, on l'a dit, de maîtriser tout de bout en bout. On a une réactivité, par exemple, qui est beaucoup plus importante également.
Tout à fait, parce que l'essentiel des pièces qu'on peint sur cette ligne-là est moulé dans l'atelier qu'on vient de traverser. Dès qu'on a un défaut sur une pièce plastique, ce défaut n'est pas forcément visible une fois que la pièce elle est brute, mais dès qu'on commence à la peindre, le défaut apparaît. Et là, tout de suite, on peut intervenir au niveau du mouleur, pour lui dire « attention, t'as un réglage à faire pour éviter tel et tel défaut ». Et là, on a une réactivité qui se joue dans la journée, dans l'heure même.
Ce qui ne se faisait pas avant.
Tout à fait, on avait un fournisseur qui était en Espagne, donc il y avait beaucoup de transports, énormément de transports, une réactivité qui était trop longue. Et bien sûr, les transports de toutes ces pièces, ça allait pas bien pour l'environnement non plus.
Voilà, le côté développement durable qui est aussi des valeurs défendues par l'entreprise Legrand. On va vous laisser poursuivre, la production ne s'arrête pas pour autant. Et puis, Edith Dumas, avec vous, on va terminer notre cheminement vers la partie commercialisation. Toutes ces pièces sont prêtes. Il va falloir les emmener vers qui de droit. Alors on passe de l'usine au bureau en une fraction de seconde.
Voilà.
Nous y voilà donc. On a changé d'univers. Nous sommes retournés dans les bureaux. Et donc là, on est en bout de chaîne, l'aspect commercial des choses.
Et on va aller se préoccuper du client. C'est important, le client. C'est lui qui nous fait vivre. Et c'est Bruno Barlet qui est le directeur commercial Legrand.
Il y a, on va dire, deux missions précises pour l'aspect commercial.
Bon, alors oui, on a deux grandes dimensions, trois grandes dimensions, on pourrait dire. On a une dimension de communication en amont d'information du marché à travers des moyens puissants et largement diffusés, de catalogues pour les professionnels qui comptent 12 000 produits différents, de guides pour les professionnels ou les consommateurs, de sites web, voire même de logiciels. Ensuite, on développe beaucoup d'outils autour de la formation, l'apprentissage. Donc on a un centre de formation qui s'appelle Innoval, qui déploie à Limoges, en région parisienne et ailleurs en France, des formations qualifiantes pour les professionnels. Donc ça, c'est vraiment de la compétence. Et puis on a la vente, qui est quand même la finalité des milliers de clients, prescripteurs, architectes, bureaux d'études, investisseurs, ou installateurs électriciens et distributeurs de matériel électrique avec lesquels nous travaillons énormément.
Ça fait déjà du monde, il faut du monde pour couvrir tout ça.
En France, sur le plan commercial, c'est à peu près 350 personnes.
C'est-à-dire que les professionnels et après les particuliers sont vos meilleurs ambassadeurs finalement de produits.
C'est un peu l'idée, absolument.
Et on parle d'une énorme entreprise internationale et en même temps, on a cet aspect familial, cette proximité, tout le monde travaille main dans la main, c'est une véritable chaîne, chaque maillon est important.
Mais c'est vrai que nous avons des gens qui sont passionnants et qui sont passionnés par leur métier, je crois que c'est leur trait commun. Et je crois que ça aussi, ça fait partie des qualités de Legrand.